Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast Morning Bull Live. Nous sommes le 19 mai 2021 et on est un petit peu perdu au milieu de nulle part. Alors tout d'abord, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a eu des bons chiffres dans le domaine du retail, de la consommation, donc tout va bien, hein. Mais par contre, il faut pas oublier que c'est aussi inflationniste quand les gens consomment comme des fous, que ce soit sur Internet ou directement dans les magasins. Eh bien, cette consommation relativement élevée crée forcément de l'inflation, donc du coup, on a peur. Alors bon, heureusement, les chiffres de l'immobilier sont moins forts que le mois passé, donc c'est moins inflationniste. Donc du coup, c'est rassurant de ce côté-là, mais en même temps, on n'est pas très content parce que vous avez quand même, eh bien, le marché immobilier qui va moins bien, donc ça veut dire que la reprise économique, eh bien, on la met soudainement en doute, donc on se pose des questions et là, tout d'un coup, on se demande, on s'interroge. Et on a peur, mais on attend les minutes du FOMC meeting. En tous les cas, c'est ce que le marché a l'air de pricer aujourd'hui. Quand on voit le comportement des marchés européens hier, ou même cette légère baisse du marché américain, eh bien, on se dit tout le monde attend les minutes du FOMC meeting. Alors, les minutes du FOMC meeting, c'est quoi? Eh bien, chaque mois, nous avons donc le meeting de la Fed, qui les mecs se réunissent le mardi et puis le mercredi, ils s'enferment dans une pièce, ils boivent du café et ils mangent des sandwichs, et puis ils parlent de l'économie et ils parlent de ce qu'ils devraient faire ou devraient ne pas faire sur les taux d'intérêt. Et donc, à la fin, le lendemain soir, eh bien, le mercredi soir, nous avons Monsieur Powell qui débarque à la télé pour nous dire ce qu'ils ont discuté et quel est le résumé finalement de tout ça. Et de ce résumé, nous en tirons nos propres conclusions. Durant ce meeting, vous avez un mec avec un bloc de sténographie qui prend en note tout ce qui se dit, tout ce qui se fait, qui est allé aux toilettes, qui a mangé un sandwich, qui a bu un whisky, qui a bu 2 litres de café. Et puis, il en tire des conclusions. C'est un rapport écrit finalement de tout ce qui s'est dit. Alors, chaque mois, 3 semaines ou 4 semaines après le meeting de la Fed, on nous publie ces minutes, tout ce qui s'est dit, tout ce qui s'est fait. Et du coup, on relit ça en se disant que peut-être à l'intérieur de tout ça, on a la phrase miracle qui va nous donner la solution de l'investissement pour les 35 ans à venir, ou en tout cas l'idée ou les preuves ou les premiers indices pour savoir ce que réellement Monsieur Powell va faire des taux d'intérêt. Donc du coup, beaucoup d'interrogations. Je vous rassure, globalement, il n'y a jamais des grandes nouvelles, il n'y a jamais de phrases miracles à l'intérieur, mais on les cherche quand même et il y a toujours une interprétation, une nouvelle interprétation de ce qui a déjà été dit et déjà été fait, qui se fait 3-4 semaines plus tard lorsque les minutes sont publiées. Elles seront publiées ce soir. On n'aura probablement pas plus d'informations que ce qu'on avait avant, mais au moins, on sera au clair là-dessus. Donc, on va attendre tout ça. Par contre, de l'autre côté, là où c'est la bérésina, c'est la crypto. La crypto se fait littéralement massacrer ce matin. Le Bitcoin est sous les 40 000 et l'Ether est sous les 3 000. Alors là, ce qui s'est passé, encore une fois, c'est pas Elon Musk qui a tweeté, cette fois, on ne peut pas tout lui mettre sur le dos. Mais la Chine a interdit aux institutions financières et aux sociétés de paiement de fournir des services liés aux transactions en crypto-monnaie. Et elle a également, au passage, mis en garde les investisseurs contre les transactions ultra-spéculatives ou spéculatives tout court sur les crypto-monnaies. Alors donc, du coup, ben voilà, ce matin, patatrac, vous avez le Bitcoin qui s'effondre, l'Ether qui s'effondre, enfin tout le secteur qui s'effondre en général. Et puis, alors, par contre, du coup, bah, vous avez l'occasion d'avoir tout le monde qui vient nous dire sa théorie, son opinion sur les crypto-monnaies. On a un gérant de hedge fund sur les cryptos qui est venu s'expliquer sereinement en disant que de toute façon, le Bitcoin va à 250 000 et l'Ether va à 20 000 dans les 12 mois. Il restera donc plus qu'à choisir son camp, et puisque certains techniciens, eux, estiment que ça va à 30 000 sur le Bitcoin, et c'est vrai quand on regarde le graphique, il n'y a plus grand-chose pour le retenir, pour aller chercher les 30 000 dollars, pareil sur l'Ether qui peut aller encore bien plus bas techniquement, si on parle que technique, mais on sait que c'est pas que du technique à l'heure actuelle dans les cryptos. Donc c'est officiellement un crash, puisque le Bitcoin a perdu 40% depuis les plus hauts, l'Ether 35%. Alors dans le monde merveilleux de la finance, un crash c'est en général 30% de baisse, donc il restera plus qu'à que les banques centrales arrivent à la rescousse comme ils l'ont fait sur le S&P 500, sauf que cette fois c'est pas évident qu'ils viennent mettre les mains là-dedans. Donc du coup, voilà, c'est sanglant ce matin, on verra comment ça se retourne. Jusqu'à maintenant, à chaque fois qu'il y a eu un trou comme ça, les cryptos se sont bien reprises. Donc affaire à suivre, mais en tout cas là, la correction est violente. On peut que remercier Monsieur Elon Musk d'avoir initié la chose. Dans les idées du jour aujourd'hui, mon idée principale, c'est de ne rien faire. On a vu surtout, j'ai regardé pas mal de charts ce matin et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de techno qui s'étaient fait avoiner en fin de séance. Donc gros sell-off sur la techno en fin de séance, mais aussi sur les values. Donc la théorie de la rotation de secteur, là tout de suite, ne fonctionne plus très bien. On a l'impression que les gens, ils font du cash. Alors, la seule solution que j'aurais envie de faire là tout de suite en voyant ça, c'est d'acheter des puts. Mais comme j'ai l'impression que les gens sont plutôt en train d'attendre ces minutes révolutionnaires du FOMC meeting pour prendre une décision pour la suite, c'est difficile. Mais quand je vois comment ça s'est terminé hier soir, quand je vois comment les futurs sont orientés ce matin, j'ai pas trop envie d'aller mettre les mains dans la moissonneuse-batteuse pendant qu'elle est en train de tourner. Donc, je préfère me dire je ne fais rien, ou alors à la limite, j'observe l'or et l'argent. Je me dis que si vraiment j'ai l'envie absolue de faire quelque chose, j'irai de nouveau me positionner sur ce type de produit parce qu'on va forcément nous reparler de l'inflation. D'ailleurs, on nous en reparle déjà ce matin. Mais avec l'arrivée de cette éventuelle inflation, on va chercher des hedges anti-inflationnistes. Et comme jusqu'à maintenant, le hedge inflationniste anti-inflation moderne était le Bitcoin, ben peut-être que les gens ils vont se dire, ah ouais, mais ben attends, là tout de suite, je vais quand même me mettre sur autre chose. On notera le bon comportement récent de l'or qui semble regagner un tout petit peu de ses lettres de noblesse. Donc peut-être quelque chose à faire de ce côté-là. Mais franchement, ça me va assez bien aujourd'hui d'observer de loin ce qui est en train de se passer, surtout quand on a cette volatilité énorme dans le secteur et des cryptos. Donc le maître mot de la journée sera plutôt prudence. La question du jour tourne autour de Monsieur John Kenneth Galbraith, qui avait dit que les bulles spéculatives que le marché n'était qu'une session, une succession de bulles spéculatives. Et là, on me demande ce que j'en pense. Bah oui, je pense qu'effectivement, le marché, il y a des bulles spéculatives qui se succèdent au fur et à mesure des années, mais entre deux, il y a des bull markets qui se succèdent. Donc, dire que le marché n'est fait que de bulles, non, je pense que le marché est fait de boules et de bulles, si je peux me permettre, de bull market et de bulles spéculatives. Mais l'humain est fait comme ça, c'est-à-dire qu'il y a toujours un moment cycliquement où on fait de l'investissement, où on se reconstruit après un crash ou après une correction massive. Et puis, durant cette période-là, on devient très prudent, très raisonnable. On parle dividendes, on parle stabilité, on parle investissement long terme. Puis tout d'un coup, vous avez quelque chose qui débarque là au milieu, comme les tech stocks en l'an 2000, comme le subprime, comme aujourd'hui la crypto, et tout le monde veut manger une partie du gâteau, parce que ce qui nous intéresse fondamentalement, c'est d'investir 10 000 francs et de se retrouver multimillionnaire dans 3 semaines. Faire de l'investissement long terme et se la jouer Warren Buffett, ça intéresse personne fondamentalement. Par contre, devenir très très riche très rapidement, ça intéresse beaucoup plus de monde. Donc du coup, quand tout d'un coup il y a une opportunité qui semble se dessiner, blam, tout le monde se jette dedans et tout le monde court derrière pour essayer de gagner beaucoup beaucoup d'argent très très vite et arrêter de travailler très très vite également. Et c'est ce qui provoque un petit peu les bulles. Donc, en résumé, ce que disait Monsieur Galbraith, c'est juste, mais il y a aussi entre deux beaucoup d'opportunités de bull market. Donc, si vous venez de seulement faire de l'investissement dans ces périodes de bulles, bah, vous serez probablement souvent extrêmement déçu parce que vous aurez une période euphorique et puis ensuite vous aurez le dégonflement de la bulle, comme on l'a vécu de multiples fois depuis, enfin, ce qui me concerne depuis 30 ans. Par contre, si entre deux, vous continuez à faire de l'investissement normal, eh bien, vous aurez une performance qui sera relativement bonne sur le long terme. L'exemple typique, c'est que moi, quand je suis rentré dans la banque en 1987, le Dow Jones, après le crash boursier d'octobre 87, valait 300 points. Aujourd'hui, il a plus de 30 000 et des poussières. Donc, du coup, vous voyez la multiplication sur une trentaine d'années, sur un peu plus de 30 ans, eh bien, elle est énorme. Et donc, de ce côté-là, eh bien, je pense que il faut pas oublier non plus la vocation du long terme. Donc, en fait, l'investissement, en dehors de ce que disait Monsieur John Kenneth Galbraith, penseur, économiste et diplomate canadien, décédé en 2006, eh bien, en dehors de ça, je pense que finalement, la finance est être investi tout le temps. Vous devez être investi, vous devez avoir un portefeuille d'investissement sur le long terme à la Warren Buffett. Et puis, quand tout d'un coup, il y a des bulles spéculatives, vous devez avoir un capital à haut risque qui vous permet d'aller jouer les héros dans les crypto-monnaies, mais pas être en dehors du marché pendant 20 ans et puis sauter dans la première bulle qui vient en disant cette fois c'est bon, je vais devenir très très riche. Je pense que c'est un petit peu comme ça qu'il faut l'observer, même si c'est pas une théorie fondamentale. Mais globalement, ce qu'il faut surtout retenir, c'est que si vous faites abstraction des bulles et que vous êtes dans le Dow Jones depuis 35 ans, eh bien vous avez quand même fait une sacrée performance sans faire grand chose. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait à raconter aujourd'hui. Le marché est en attente des informations des minutes du FOMC Meeting. Et puis, on va certainement beaucoup, beaucoup, beaucoup parler des cryptos dans les heures qui viennent. Je vous souhaite une très, très belle journée et je vous retrouve demain matin, comme d'habitude, dans ce podcast. Passez, profitez bien de la journée.